propose peut-être qu'on ouvre la discussion à l'ensemble de la salle, s'il y a des questions. Très bien, Thierry.
Je suis très heureux, Thierry Gloss, je suis enseignant ici. Je suis très heureux d'assister à ce séminaire, d'abord de faire votre connaissance, parce que je vous connaissais autrement qu'à travers vos travaux sur les pavillonnaires. J'ai fait la publicité d'un excellent papier dans la revue Population sur le divorce, sur les conséquences qui causent le divorce. Je trouve que c'est un papier qui est absolument lumineux et donc je vous connaissais à cause du divorce, non pas à cause de l'accession à la propriété. Et ce bonheur d'être parmi vous atténue un peu ma frustration d'avoir manqué le dernier séminaire du LAMES où mon collègue Bernardo Cometté, j'ai été empêché ce jour-là, j'en suis désolé. Alors je suis très heureux également, de manière générale, je suis quelqu'un de très heureux.
C'est mieux.
Je suis très heureux que votre livre ait connu un franc succès au point où. Certaines personnes se sont crues obligées de vous envoyer leur dossier de surendettement.
Je dis ça parce que c'est en plus hier à Marseille, ce qui est fou pour moi, parce que je viens d'arriver à Marseille il y a un mois, c'est pas possible, trois ans après, ça me fait peur.
C'est un joli cadeau éditorial. Alors il y a un ouvrage qui, j'en viens à mon commentaire, je ne sais pas vraiment si c'est une question, si vous y trouvez matière à réponse, il y a un ouvrage qui porte le même titre que le vôtre, et que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « Tous propriétaires »,« Propriété du logement et classe sociale en France depuis 1950 », écrit par Tristan Topaloff. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage.
Ça ne s'appelle pas « Tous propriétaires »
Ah si, ça s'appelle « Tous propriétaires », oui. C'était dans ma bibliographie de thèse, c'est dire que c'est ancien. Donc cet ouvrage, quand j'ai vu le titre de votre ouvrage, je n'ai pas pu, ayant lu ce travail de Tristan Topaloff, que je ne présente plus, du début des années 80. Donc ma question, ma remarque porte à la fois sur vos travaux et sur celui de Topaloff, parce que je trouve qu'il y a une belle continuité. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, je vous le recommande, tous propriétaires. Vous retiendrez facilement sous titre Propriété du logement et classe sociale en France depuis 1950. C'est paru en décembre 1981, ça fait 260 pages. C'est au CSU, Centre Sociologie Urbaine, à Paris. Vous connaissez bien évidemment. Alors, il y a dans cet ouvrage de Christian Topaloff, et on va voir effectivement toute cette belle continuité de la pensée. Il y a une thèse centrale, que l'on retrouve d'ailleurs dans votre que, à savoir qu'il existe, alors dit ainsi, ça peut paraître un sociologisme ordinaire, mais c'est fondamental, il existe des différences et des inégalités sociales d'accès très fortes entre les classes sociales dans l'accès à la propriété du logement. Son postulat, il l'établit en faisant une typologie que je trouve tout à fait lumineuse. C'est-à-dire qu'il existe des filières sociales de production du logement. Il distingue l'achat de deuxième main, l'achat à un promoteur et la construction à l'initiative des futurs propriétaires occupants. On verra que cette filière-là, elle va nourrir des travaux sur l'autoconstruction. Elle n'est pas le castor. Oui, les castors. Et il y a, me semble-t-il, trois résultats saillants dans son travail. Je ne l'ai pas lu depuis très longtemps, mais... Pour ne rien vous cacher, je me suis plongé dans ma thèse, puisque j'ai commis une thèse qui a connu une confidentialité universelle sur l'accession à la propriété du logement au lotissement. Bon, c'était en 1985, je vous dis, elle est restée confidentielle. Dans le travail de Christian Topaloff, il y a, me semble-t-il, trois résultats saillants, et c'est sur l'un d'entre eux que je voudrais que vous exprimiez, s'il vous plaît. Le premier est que le processus d'accession à la propriété du logement est lié à l'extension du salariat, et notamment au développement des couches moyennes salariées. Je vous rappelle la période des années 50, 70, milieu des années 70. On est dans ce mouvement immobilier sur lequel je dirais un mot. Deuxième résultat saillant et qu'on trouve tout à fait, qui a occupé, me semble-t-il, le cœur de votre intervention aujourd'hui, en tout cas le cœur tel que moi j'ai pu le localiser, c'est à savoir que ce processus d'accession à la propriété du logement est lié à l'explosion du crédit bancaire. le taux d'usage, je regardais les statistiques avant de venir, est passé de 36, je parle sous votre contrôle, de 36,7% en 1966 à 65% en 1972. C'est-à-dire que un propriétaire occupant sur trois seulement, au milieu des années 60, avait recours au crédit. Ils étaient deux sur trois au début des années 70. Ils sont aujourd'hui
94% pour les primes maximales.
Voilà. Donc là, on a vraiment un processus massif, si on prend ce terme, massif d'explosion du crédit bancaire. Et vous, ce que vous faites dans votre travail, qui je trouve passionnant, c'est précisément étudier ce rapport social différencié au crédit bancaire. Et ça, Toupalov ne le fait pas du tout. Et pas du tout. Et troisième postulat, éminemment discutable, de Christian Toupalov, selon lequel l'essentiel de la diffusion de la propriété du logement se joue du côté de l'offre. Alors, il donne une définition de l'offre. Alors, j'oubliais simplement, avant juste de dire un mot sur ce troisième postulat, pour illustrer le premier, c'est-à-dire le développement du salariat comme facteur de diffusion du processus d'accession à la propriété. Quelques statistiques. Pour la période 54-75, le taux d'accroissement des propriétaires a été de 122% pour les cadres sup. Là, j'ai le nez en face de votre tableau. On retrouve les cadres sup en première position, plus 122%, suivi des cadres moyens, plus 105%. À l'époque, on disait cadres moyens. Vous savez pourquoi. Et en dessous, bien en dessous, les employés et les ouvriers. Mais les employés et les ouvriers étaient quand même à plus 80% quand même. Donc on n'était pas dans ce phénomène de plateau que vous avez bien, vous, historiquement positionné. Je reviens sur mon troisième postulat, enfin c'est pas le mien, c'est celui de Christian Toupalov. À savoir que l'essentiel de la propriété se jouait du côté de l'offre. Moi je ne pense pas du tout. Alors, il faut comprendre pourquoi il a dit ça. C'est parce qu'on est au début des années 80, l'auteur avait écrit 8 ans plus tôt, en 1974, Les promoteurs immobiliers. On est dans une analyse sociologique des phénomènes urbains ou rurbains, largement imprégné par le courant de pensée marxiste structuraliste, Manuel Castel, la question urbaine, la production d'espace, Edmond Pretzel, mon ami, co-directeur de la revue Société Contemporaine lorsque j'y étais, Francis Godard, Monopoleville. Donc on est dans ce courant de pensée. Et donc l'analyse de Toupalov est une analyse, je dirais, une forme de critique du système capitaliste. Et on est dans cette période aussi de l'analyse critique marxiste des classes sociales, je pense à Nikos Poulantzas, etc. Moi je pense, en tout cas je pensais lorsque j'étais jeune, que tout ne se jouait pas du côté de l'offre. J'étais donc un marxiste dissident. Et votre travail, je le trouve, je n'ai pas lu votre travail, j'en étais resté au divorce. Ou au rapport sociaux de sexe dans la vie domestique. Puisqu'il y a quand même deux numéros dans les actes de la recherche qui sont suivis, un sur les classes sociales au foyer dans lequel vous étiez, et puis un précédemment qui est tout aussi intéressant. Ce que je trouve tout à fait passionnant dans votre travail, c'est effectivement comment, pour dire vite et mal, c'est vous qui pouvez parler, comment les familles s'approprient un certain nombre de choses, comment on est essentiellement, à travers la question de l'accession à la propriété du logement, dans des processus d'appropriation. Et ça, la pensée marxiste, je dirais, était un peu muette sur cette dimension, je dirais, que vous avez appelé vous des stratégies, à un moment donné. Donc voilà, ma question, s'il y en a une, c'est comment vous comprenez qu'on a pu dire au début des années 80 que tout se jouait du côté de l'offre, et comment aujourd'hui, à travers les enquêtes sociologiques que l'on peut lire et auxquelles vous participez, on voit que beaucoup d'enjeux se situent au niveau de la demande. L'autoconstruction. Dans lotissement que j'ai enquêté dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'était des lotissements qui étaient créés à l'initiative de Pieds Noirs à Fréjus, qui avait, s'était réuni en SCI, avait acheté un terrain et avait auto-construit pour la plupart. Et l'auto-construction, je buvais du petit lait tout à l'heure en vous écoutant, l'auto-construction faisait que d'un pavillon à l'autre, on dit pas pavillon, on dit une petite maison, oui, villa. En France, on dit villa. D'une villa à l'autre, on voyait que le crépi était terminé ou pas, ce qui provoquait des, non pas des conflits de voisinage, mais des relations assez tendues, parce que effectivement, le coût du caddie que l'on peut voir comme ça, voilà. Voilà ma question. Juste une deuxième question, mais c'est pas une colle, hein, c'est pas un quiz. C'est pour témoigner de mon inculture. Vous avez beaucoup parlé des taux d'effort. 33%. La question que je me suis posée, c'est, ne pensez-vous pas que ces taux d'effort ont augmenté au cours de ces 20 ou 30 dernières années? Parce que moi, j'en suis resté à un taux d'effort de 25%. Ils sont, sous votre contrôle, passés à 33%. Qu'est-ce qu'on peut lire comme stratégie derrière de solvabilité ou de solvabilisation? Sachant que lorsqu'on fait la coupe, regarde comment les taux d'effort se distribuent, on voit une belle courbe normale avec exactement ce que vous dites. Je trouve absolument passionnant, c'est-à-dire que c'est dans les milieux sociaux les plus défavorisés que le taux d'effort est le plus important. Je m'arrête là.
Je propose qu'on prenne peut-être une deuxième question, comme pour vu que le temps passe.
Belle question qui a été posée. Alors moi, ce sont des petites questions, des petites. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très stimulant et puis sur plein de volets, très bien entendu la démarche de l'enquête. Moi, j'avais une interrogation sur un autre ouvrage plus récent. Je ne sais pas à quel moment il est paru. C'est celui, l'ouvrage collectif avec.
Marie-Cartier, la France des petits moyens.
La France des petits moyens. Dans quelle mesure tu as discuté cet ouvrage porté aussi sur l'accès à la propriété dans ces banlieues parisiennes. Après, j'avais une série de réactions, de petites réactions face à ce que tu disais, aux questions qui ont été posées. Donc effectivement, sur les enjeux autour de la demande et finalement tous ces enjeux qui suscitent cette demande qui est évolutive aussi. Et ça rejoint aussi ce dont on parlait sur la plus-value, le souhait d'une plus-value de ces habitants. Moi, j'ai en tête les travaux aussi qu'on portait sur les cités populaires HLM qui sont transformées en copropriétés. Et on voit aussi dans ces travaux que finalement la fermeture du lotissement, les petits équipements urbains autour, participe de la revalorisation du lotissement, en l'occurrence de la cité devenue copropriété. Donc dans la suite et la poursuite de la discussion avec Pierre, je posais la question, est-ce qu'on voit apparaître ça, pas seulement pour des enjeux de sécurité, parce qu'en fait finalement je n'ai pas lu le livre, donc on ne sait pas sur la carte ce qu'il y a autour de ce lotissement. Ça participe d'une revalorisation d'un certain standing de la part de ces propriétés ou pas, hein, ça c'est la question que je me posais. Ensuite, j'avais une question sur tout ce que tu as dit aussi sur on se regarde, on se contrôle. Alors il a été question, tu as parlé d'une hiérarchie sociale locale qui se construit. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler finalement, au travers de cette fabrique de la norme, de valeurs, de la fabrication d'un style de vie, du pavillonnaire, de cet habitant du lotissement? Et si oui, quel est le groupe social qui donne un peu le ton, hein, pour reprendre un peu même les écrits de Chambourdon sur ces questions-là? Il y a un groupe social qui donne le ton, qui n'est pas forcément majoritaire, mais qui va donner le ton d'une façon d'être. Voilà, les questions suscitées par ce riche exposé.
Merci pour vos lectures respectives. Je vais commencer par les petites questions, par lâcher, pour garder le temps. Tupalov.
Tu peux ne pas répondre à tout.
Oui, je vais très vite. Les petits moyens.
Surtout qu'il y a des... Du coup, il y a d'autres vagues de questions.
Et après, voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être laisser le temps de répondre à ces deux-là, sinon j'ai peur que...
Petits moyens, je vais hyper vite. C'est pas un livre sur l'accession à la propriété, parce que c'est un livre sur le renouvellement des populations et les rapports sociaux de classe dans l'espace. Mais il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas de sociologie économique, en fait, dans ce livre. Et c'est un peu ce qui m'a sauvée sur le terrain. C'est qu'au départ, évidemment, je connaissais cet ouvrage. Stéphane Baum, on définit le sujet. Et il me dit, tiens, je te donne le manuscrit que je vais éditer à Découverte avant qu'il sorte. Paf, les petits moyens. Je dis, mais il se moque de moi, c'est mon directeur de thèse, je suis en première année de thèse, et qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, bon, il y a deux choses. C'est de la banlieue, deuxième couronne ou troisième couronne parisienne, on est dans un espace d'habitat ancien, c'est pas de la construction neuve, et il n'y a pas en fait de processus d'accession. C'est pas sur le marché de l'accession, c'est vraiment sur les rapports sociaux. Alors, très intéressant par ailleurs, il y a les changements HLM, propriété, etc., mais il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'endettement. Donc en fait, à un moment, sur le terrain, j'ai réussi, et j'ai discuté avec Marie Cartier, et qui était assez vite, je vais entamer ce terrain, et qu'est-ce que je fais, enfin, je veux dire, c'est, voilà. Donc ça m'a un peu aidé, mais au début, paniquer, effectivement. Et en fait, voilà, ça a plutôt partie de mon, des livres de référence que j'ai lus pendant ma thèse. Les aménagements, donc là on voit la première tranche plutôt classe moyenne, ouais, à l'américaine, il faut pas de haies, pas de barrières, les formes ont été imposées par lotisseur, et deuxième tranche, vous voyez les maisons, j'aurais dû les mettre à côté, voilà. En fait, accession sociale, passe foncier, la mairie ni l'aménageur n'avaient les moyens d'imposer la forme de la maison, le crépi, la taille des maisons, comme dans la première tranche. Ça aurait dû être ça, en fait. Hein. Ça aurait dû être un lotissement comme ça, de maisons standardisées, exactement choisies sur deux modèles, etc. Ce que j'ai vu, c'est que les ménages, effectivement, aménagent leur maison et les abords, ceux qui le peuvent, et ceux qui pensent revendre, mais qui sont en fait très rares, en vue de se dire, ça améliore, si jamais il y a une revente, ça améliore. Mais là où je rejoins tout à fait les analyses des Pinson-Charlot, c'est que il y a beaucoup moins la mobilisation sur l'espace semi-privatif, ou enfin l'idée que le logement et la valeur du logement, elle s'arrête pas à la porte du logement, mais elle continue jusqu'au bout du lotissement, voir le trottoir d'en face, voir la rue, etc. La mobilisation spatiale et urbaine des ménages de classe supérieure, elle est incomparablement plus puissante. Et là, ils essayent, hein, ceux qui donnent le ton. Donc, c'est les cadres de la première tranche, les quels moyens, qui en fait, concrètement, ça veut dire quoi donner le ton? Deux choses. Ils s'autorisent à intervenir dans les maisons de la deuxième tranche en disant vos enfants jouent dehors. Hein, donc, rappel à des normes de. D'éducation, etc. Et puis aller voir les élus locaux, aller saisir en envoyant des photos. Lui, il a fait un barbecue, il vous a pas fait de demande d'autorisation de construire. Donc à proximité avec les élus, proximité socio-culturelle, et puis intervenir. Il dit que le ton, mais ils n'ont pas les moyens d'imposer le respect des règlements d'urbanisme. Comme je vous disais, la commune, c'est une commune plutôt populaire. Un barbecue qui s'est monté, s'il n'a pas fait l'objet d'un dépôt de demande d'aménagement, la mairie va faire un rappel à l'ordre, mais elle va pas le faire déconstruire. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que... ils n'ont pas les moyens déjà financiers, etc. Puis ils n'ont pas intérêt à ce que des maisons soient en chantier, à mettre dans les dettes des ménages populaires, etc. Donc ils n'ont pas les moyens du contrôle urbanistique, esthétique qu'ils voudraient, en fait. Et ils le voient, les élus, quand ils voient ce lotissement, il y a deux tranches, elles sont nettes, et voilà. Ça, ils l'appellent la rizière, ce qu'ils veulent, tout un tas de noms, parce que les terrains sont pas nivelés, parce que... Et là, non, mais c'est vrai, c'est les mêmes maisons, c'est au départ, c'est censé être les mêmes maisons, les mêmes lots, les mêmes aménageurs, et voilà. Donc c'est vraiment... est-ce qu'il y a un style de vie du pavillonnaire? Du coup, moi, je m'oppose fortement à cette idée en disant, précisément parce qu'ils achètent à des moments différents de leur parcours et qu'ils ont probablement pas les mêmes chances d'y rester, ou les mêmes chances sociales au sens d'y rester, et en fait, ils ont rien à voir. Ils arrivent à un moment donné dans le même espace. Il y en a qui vont rester 5 ans, il y en a qui vont... Voilà. Il n'y a pas un pavillonnaire ou un style de vie pavillonnaire. Ils arrivent à un moment de leur trajectoire qui sont complètement différentes, avec des écarts d'âge, de structure familiale, de qualification, de type d'emploi. Enfin, donc ils se retrouvent dans ces lotissements qui ont l'air de loin à peu près homogènes, et encore quand on regarde de près, pas, mais qui empêchent, à mon sens, de parler du pavillonnaire ou du périurbain. Sur la construction sociale de de l'offre, ça c'est peut-être un vrai sujet. C'est vrai que quand je suis arrivée dans l'enquête, j'avais aussi pas mal sollicité d'entretiens avec les fédérations nationales de promoteurs constructeurs, l'union des constructeurs de maisons individuelles, etc. Et des pouvoirs publics qui disaient beaucoup, il y a une demande en France, les ménages, enfin les Français préfèrent la maison individuelle, veulent de la maison individuelle. Et c'est un discours qui est très très fort, qui pour l'inverse porte sur la demande, en disant on doit répondre à leur demande, etc. Et la politique du logement est une des politiques les plus idéologiques qui soit. Enfin, je veux dire, on a très petit, même les enquêtes de logement ne permettent pas de définir ça, qui veut quoi. Ce que je trouvais intéressant plutôt, c'est de retravailler sur la manière, à la suite de Loïc Bonneval, qui est à Lyon, qui propose ce qu'il appelle la sociologie des tiers. C'est de dire comment les intermédiaires du marché du logement contribuent à modeler les aspirations, à reformuler, à faire advenir, à faire se rencontrer un état du marché des dispositifs d'aide publique et des aspirations. Et Loïc Bonneval, il appelle ça sociologie des tiers. Il y a un article dans l'espace et société qu'il a fait en disant il ne faut pas juste regarder quelles sont leurs aspirations d'un côté et quelles sont les politiques ou les aides publiques existantes, c'est comment on fait se rencontrer cette offre, cette demande, et quel est concrètement le travail des agents immobiliers, des banquiers, etc. Et je pense que c'est, en sociologie de l'action publique, ils appellent ça l'action publique par le bas, etc. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est voir qu'est-ce qui fait qu'à un moment on entend parler du pass foncier et on se met à prendre un pass foncier. Enfin, c'est pas magique, quoi. C'est pas juste à la radio, j'ai entendu le matin sur France Inter la pub pour le pass foncier. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est socialisé, acculturé à des dispositifs d'aide publique qui orientent le choix de l'accession en périurbain, quoi. Ça, ça a été. C'est une voie qui m'a permis un petit peu peut-être de me tirer peut-être à un moindre frais du conflit offre-demande avec un débat qui était plutôt aujourd'hui porté sur l'idée que c'est on doit répondre à la demande des Français pour la maison individuelle, on construit du collectif, etc. Et sur ce point, oui, effectivement, les travaux de Topalov, j'avais effectivement beaucoup lu. Sur l'extension du salariat, je rejoins complètement. Alors, Topalov, il fait des variations concomitantes, c'est-à-dire il compare des séries, mais la causalité, on ne sait pas, c'est l'hypothèse qu'il en fait, mais pour le coup, je suis sur à la fois l'explosion du salariat et, comme vous dites, du crédit bancaire qui est massif aujourd'hui. Sur l'offre, encore une fois, moi du coup je me suis pas située peut-être dans un débat théorique mais plus dans une démarche empirique, méthodologique, qui était de dire plutôt de leur demander pourquoi ils ont acheté là, c'est comment, c'est simplement, c'est un peu ce qu'on apprend en L1 en sociaux, mais comment, ça veut dire concrètement, je disais pas mais pourquoi vous êtes retrouvés évidemment avec les yeux la Marieux dans cette commune à côté des, on voit là les usines de pont, de Cherui, les tours au fond, les bâtiments HLM de, voilà. C'est plutôt, mais comment? Alors, à partir de quand vous avez commencé les démarches de recherche? C'est quelle agence? Est-ce que vous avez été sur Internet? Combien de maisons vous avez visitées? Combien d'appartements? À quel prix? Où? Etc. etc. Et pour me rendre compte qu'effectivement, il n'y avait pas du tout un choix stabilisé, ni de localisation, ni de statut d'occupation. Enfin, pour moi, c'est vraiment un mythe qu'il y a une préférence pour l'accession à la propriété individuelle. Et quand on reconstitue les démarches, y compris des locataires, on voit effectivement que ça peut d'abord se tourner par le locatif privé, par le locatif HM qui apparaît très très protecteur juridiquement, financièrement, pour un déménage. J'ai une collègue de l'INED, Pascal Dietrich, qui travaille sur les locataires HM. Un parc particulier, c'est le parc parisien. Mais évidemment, pour ces ménages-là, c'est une protection juridique et financière, et le fait de pouvoir accéder à des aménités très fortes de la ville, face au statut qu'on dit déqualifié de locataire HLM et qui ne fait pas le poids, quoi. Donc c'est vrai que de prime abord, je m'étais dit, faut pas que je rentre dans la question pourquoi vous avez choisi une maison, quoi. Mais voir reconstituer les étapes concrètes dans une approche très matérialiste, quoi. Vraiment faire donner des dates, des chiffres, des nombres de maisons visitées, etc. Ouais. Et alors pour le coup, le défi c'était en essayant d'avoir, c'est toujours du reconstruire, du rétrospectif, avec des logiques de justification, mais point de vue conjoint, c'est tous des couples qui ont acheté, plutôt biactifs, donc essayer d'avoir la reconstitution de la chronologie de part et d'autre. Et là, c'était hyper intéressant parce qu'on a vraiment l'effet de présentation de soi du projet résidentiel, la rhétorique du projet de Boltanski, elle est là-dedans, en fait, au départ. Les couples de quel moyen, ils me disent, je sonnais aux portes, n'importe quand dans la journée. Et ils n'étaient pas là, Ou alors s'il y en avait un, il me disait non, revenez, on fait l'entretien à deux, il faut qu'on soit deux pour répondre. C'est un projet de couple. Hein, la rhétorique du projet immobilier comme projet de couple qui marque la réussite conjugale, familiale, etc. Et c'était pas du tout un dispositif d'enquête qu'on m'imposait dans les familles d'ouvriers ou d'employés que je voyais, où je sonnais, celui qui était là, il me répondait et racontait. Et ça, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, déjà rien que dans la mise en scène de la trajectoire d'achat, de l'implication du consensus conjugal autour de l'achat, etc., qui disait déjà à la place qu'avait ce pavillon ou cette maison dans leur trajectoire sociale, leur représentation que c'était leur trajectoire sociale.
On va passer peut-être à une nouvelle série de questions. Vincent ?
J'avais deux.
Et après, tu sais.
J'ai fait la question simple. La première, c'était par rapport à ce que vous écrivez sur les choses de sociabilité locale qui est en train de. Fortement en train de classement, ou en train de situer dans une forme de situation sociale locale. Je me disais. Mais peut-être que tu ne l'as pas vu, peut-être que moi, c'est une vision, ou en tout cas une impression que j'ai, parce que moi aussi, je ne suis pas là-dedans, mais j'ai habité dans différents types de logements qui peuvent ressembler à ça. On peut aussi trouver d'autres formes de liens sociaux, en fait, de sociabilité, qui vont, notamment sur des parcours, on peut avoir des parcours qui sont similaires et qui peuvent justement trancher d'une certaine manière. Ces gens de classement ou sinon avoir des cultures, alors qu'ils sont dans un anthropologique, mais qui peuvent justement permettre de trouver des. Est-ce que je comprends tout à fait ce jeu qu'on peut avoir, on va se défier des uns et des autres, ou plutôt être attiré, séduire d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des mécanismes à rebours qui travaillent aussi les gens sur un tien, j'ai peut-être des choses, je découvre aussi l'autre, je m'en fais une idée, je découvre au travers d'une interaction, on a des choses en commun, au travers des enfants, et qui font que ces jeux de classement sont atténués en partie par d'autres formes, par d'autres mondes. Donc ça c'était ma première question. Ma deuxième question est purement anecdotique et je pense que vous n'avez pas par rapport au panneau photovoltaïque,
ça va pas,
c'est pas du tout professionnel, ça va pas. Moi j'ai fait l'hypothèse qu'en France c'était plutôt des classes moyennes, mais pas forcément des classes populaires supérieures qui allaient acquérir ça. Donc plutôt des choses plutôt hautes, on va dire. À la différence que j'ai vu en Italie, vous avez une autre hypothèse, où c'était plutôt les bas, donc les inférieurs bas qui allaient utiliser ça parce que il y avait une forme d'enjeu de classement. C'est finalement faire de l'argent un peu sale de faire ça, et quand on est riche, on n'a pas besoin de faire de l'argent comme ça. Donc c'est ce que moi il me semble, c'est une hypothèse que j'avais en Italie, qui n'est pas du tout généralement confirmée, mais simplement liée à l'observation du terrain. Alors qu'en France, ce n'est pas forcément les mêmes enjeux de classement qu'on peut avoir autour des conséquences, qu'est-ce que ça peut avoir en termes de classement social, d'avoir de mettre une photovoltaïque chez soi. Qui met une photovoltaïque et est-ce que ça peut avoir des effets sociaux?
On enchaîne avec
la question. Merci pour ton intervention, ça m'a rappelé quand même des travaux de Gérard Altab sur les HLM dans la vallée de Nantes, où il y avait cette question très intéressante du procès d'intention que les familles se faisaient entre eux par rapport aux rôles sociaux, par rapport au fait de s'occuper bien, s'occuper des enfants, etc. Donc c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Je voulais savoir si tu as d'autres éléments là de cette espèce de renvoi, de procès, de jugement qui se font entre les familles par rapport à ce que tu as dit. Et une deuxième question sur comment ça vote précisément dans ces quartiers. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution, notamment du vote par parti politique, par famille politique, dans ces quartiers?
Et moi, je vais rajouter une petite question qui est un peu le prolongement qui est un peu dans le prolongement de la première de Cesare, sur la place
des enfants et de la dimension éducative autour de tout ça, parce que ça a été évoqué plusieurs fois sur quelle place ça a dans les liens sociaux, soit pour en créer, un peu comme disait Vincent, en dehors des hiérarchies sociales, ou au contraire pour mettre de la distance, comme l'exemple que tu citais sur faire des reproches à l'éducation de certaines familles. Et puis, tu l'as pas évoqué, mais peut-être au niveau des stratégies scolaires et du rapport à l'école qui se joue aussi, que tu as étudié. Donc, si en quelques mots, avec tout ça, il y a possibilité.
Oui, il y a un gros sujet effectivement sur les enfants comme passeurs des frontières sociales, qui est une idée qu'on a. Alors là, c'est un effet du terrain propre. Et j'allais dire qui est mal pensé par les élus, c'est qu'il y a deux écoles, une ZEP et l'école du village, et les enfants de la première tranche, donc des cadres moyens, sont scolarisés dans l'école du village, et la deuxième dans l'école ZEP, deuxième tranche. Donc il y a un effet de coupure, qui est coupure physique dans le lotissement, qui est lié à l'effet remplissage du lotissement. La première tranche arrive en premier, l'école du village est saturée, on envoie les deuxièmes tranches en bas. Et en fait, rétrospectivement, c'est le discours que j'ai eu, puis rétrospectivement, en creusant, j'ai vu les lettres de mobilisation des parents de cadres moyens pour être dans l'école du village, pour demander au rectorat l'ouverture d'une classe, etc., ce que n'ont pas fait les autres, qui ont appris après coup en arrivant dans le lotissement, c'est aussi, c'est socialement situé, ils n'ont pas regardé le classement des écoles avant d'arriver dans la commune, en pensant que les écoles seraient meilleures que les écoles des communes de banlieue qui quittaient, où ils arrivent en disant c'est un peu fort de café, on part d'une ZEP ou d'une REP et on retombe en REP. Et on ne voulait pas ça parce que, voilà, bon, bref. Donc ça, c'est peut-être l'effet, peut-être, de désenchantement le plus fort qu'il y a eu dans le lotissement pour les familles de la deuxième tranche qui se retrouvent rescolarisées en pensant que le périurbain, c'est la campagne, c'est vert, il n'y a pas de cas sociaux, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, finalement, les enfants dans ce lotissement, il y a eu, effectivement, ils ont une sociabilité, des frontières, ils s'autorisent en fait, ils ont un contrôle social et peut-être une perception ou un sens social, ce que Wilfried Ligné vous dira, non, c'est pas vrai, hein. ils s'autorisent en tout cas à franchir les frontières sociales plus facilement que les adultes, c'est-à-dire ils circulent des terrains à un autre, ils frappent aux maisons. C'est les parents qui ont un contrôle très très fort de la sociabilité enfantine au sein du lotissement, qui refusent que des enfants rentrent dans leur maison, et qui vont voir les autres parents pour leur dire « Votre enfant vient toujours sonner chez le mien, je ne veux pas qu'ils jouent ensemble. » Et ils le font au nom du fait qu'ils ne fréquentent pas les mêmes écoles, et ils s'appuient beaucoup sur les classements scolaires aussi. Dans un lotissement comme ça, voilà, on sait quel enfant est dans quelle école, et là c'est physique, et puis on sait quel enfant a redoublé, pas redoublé, etc. Bon, bref. Et donc il y a un contrôle finalement parental de la sociabilité enfantine qui est très très fort au quotidien, qui vise à rétablir en partie les frontières naturel, pas au sens légitime, hein, mais qui sont établis suite au processus de peuplement de ce lotissement. Donc finalement, ils ne jouent pas tellement ce rôle de passeur, voire, ce que je dis dans le livre, ça va vous déprimer, ils contribuent à la collecte des indices sociaux de classement des familles, parce que comme ils sont rentrés dans les maisons, comme ils savent que machin, s'il a des télés, pas de télé, des portables, pas de portables, quelle activité, les parents, ce qu'ils font. Et en fait, les parents qui ne sont pas rentrés dans les maisons ne savent pas leur enfant qui a quoi, qui reçoit quoi. Qui... Donc c'est vraiment, enfin, c'est un truc, c'est un peu un panopticon à la Foucault, mais c'est, ça marche bien. Et les enfants, malgré eux, entretiennent, ou enfin, en tout cas, et ils sont des informateurs privilégiés du positionnement social des uns des autres, en fait. Et les parents contribuent aussi à les interroger, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, il y a quoi.
Alors c'est qui a tagué?
Ah, la borne électrique, oui. Du monsieur devant lequel il y a le panneau solaire.
Ça fait une affaire.
Ouais. C'est qui, mais... Alors, le tag, non, on ne voit pas, il y a une petite logette électrique et qui a été au marqueur noir, il dit tag, mais effectivement qu'un marqueur noir, et il y a une enquête menée par les parents de la première tranche sur quel enfant, et c'est les enfants de la famille noire, mais c'était pas les enfants de la famille noire. Ils n'ont jamais su qui l'a fait, évidemment. Mais ils sont allés accuser ces enfants de la famille noire, etc. Bon. Ça s'est monté en épingle, effectivement, et ça se cristallise sur des objets matériels d'aménagement du lotissement qui sont aussi des enjeux financiers. C'est pas que symbolique, c'est de dire, mais voilà, c'est des rappels, effectivement, à des espaces résidentiels qu'ils ont quittés, et puis peur de la dévalorisation aussi des maisons et tout ça. Sur le photovoltaïque, c'est un technicien, donc c'est pas le sommet de la hiérarchie sociale du lotissement. C'est essentiellement des processus d'optimisation fiscale. Et en fait, manque de. Et pour lui, en fait, c'est très intéressant parce que son panneau, il est face à une colline. c'est l'orientation, mais personne ne voit dans le lotissement. Il y a à peu près que lui qui sait qu'il a mis ça. Face, parce que là, en fait, on ne voit pas, c'est une pente assez forte. Le lotissement, il n'y a pas de maison au-dessus, quoi. Il est vraiment dos. Là, je suis montée dans un champ pour faire la photo. mais effectivement, et voilà, c'est le groupe, ouais, le groupe des cadres moyens, petite classe moyenne qui sont installés là, mais il n'en fait pas un enjeu d'extinction. Mais après, sur un cas, je peux pas raisonner, donc je te laisse juger par rapport à tes.
C'est un enjeu d'extinction de ne pas en avoir.
Ah oui. Mmh. Voilà, je te laisse juger avec ce cas-là que je j'amène à ton moulin. Et comment ça vote
pour maintenant pour là, on est dans les années.
Bah là, par exemple, la photo, c'est de 2009.
2009.
Oui. Et il n'y en a pas plus aujourd'hui.
Ouais. J'étais tellement éblouie que...
Non, parce qu'en fait, en plus, c'est une région où il n'y a pas de soleil. Ouais. Et le lotissement n'est pas orienté. Il y a beaucoup de brume. Ouais. Il y a beaucoup de brume et elle n'est pas orientée. Alors peut-être que justement, dans d'autres lotissements, plus... je ne sais pas. Ouais. Sur le vote, en fait... donc. Premièrement, en fait, je suis pas politiste. Deuxièmement, j'ai pas fait de sondage sorti des urnes, etc. Alors qu'il y a eu les élections de 2012, il y a eu plusieurs processus. J'ai commencé par rentrer sur les enjeux de politisation avec des questions de politique locale, d'aménagement du territoire de la commune, etc. Pour voir déjà est-ce que c'était, enfin, pas demander le rapport au vote et au parti, mais pour essayer de les situer sur un échiquier politique ou voilà leur proximité ou leur distance. Et comme je le disais tout à l'heure, la première surprise, c'est que c'était pas des pavillonnaires de droite ou ancrés à droite ou réactionnaires ou conservateurs, ou en tout cas une infime minorité de ceux-là. Et ceux-là, précisément parce que ils avaient une très forte conscience de classe. Ils le diraient pas comme ça. Ils diraient par contre, on a conscience qu'on n'est pas riche, on a conscience qu'on n'achète pas des maisons de bourgeois, qu'on n'achète pas... Voilà. Donc conscience de se situer... voilà, et, alors plutôt typiquement des petits moyens, ils disent, on va dire, ils sont pas pauvres, mais ils savent très bien qu'ils sont pas. C'est pas parce qu'ils sont devenus propriétaires, l'hypothèse d'enrichissement et de conservatisme des propriétaires, elle était pas du tout validée par ce terrain-là. Et deuxièmement, à l'époque, le contexte politique national était sur les questions migratoires, notamment, était très clivé par la politique de Sarkozy, etc. Et donc, pour la moitié du lotissement, je l'aurais dit, c'est beaucoup à l'échelle locale, mais y compris quand on regarde les accédants, c'était des primo-migrants. Ou, enfin, un des conjoints était primo-migrant dans le couple, et je ne parle pas des primo-migrants d'Europe du Sud, des primo-migrants turcs, d'Afrique, donc Maghreb ou Afrique subsaharienne, Asie, etc. Donc, qui avaient aussi un positionnement... politique très claire par rapport à la politique migratoire de Sarkozy, donc qui se situait assez facilement sur un échiquier politique et plutôt à gauche. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a plutôt surpris parce que tout ce que j'avais lu sagement à la BNF sur l'idée de conservatisme politique, moral, des familles qui accédaient, qui voilà. Avait un vote à droite parce qu'aussi c'était un vote économique. Il y avait eu plein d'analyses dans les années 80 pour dire il vote à droite parce que les politiques de droite favorisent, enfin permettent aux propriétaires d'optimiser leur patrimoine, etc. Ça marchait pas là en tout cas. Donc après, c'est un effet évidemment de sélection de la population enquêtée. C'est-à-dire que c'est des ménages plutôt petits moyens, largement issus d'immigration, pour partie qui n'est pas la nationalité française. Donc on est quand même dans des. Ménage voilà, qui se situait comme ça socialement, qui avait une conscience claire de leur position dans l'espace social et aussi de vote, même s'ils ne votaient pas, hein, pour le coup une politisation très forte, indépendamment du fait d'aller voter ou pas. Quoi.
Merci pour le respect des horaires prévus absolument parfaits de cette séance. Merci beaucoup, en tout cas, les discussions ont été riches et en tout cas, donc, c'est avec plaisir. Qu'on a pu vous écouter.